Bonsoir, entrons ensemble dans un tendu débat consacré aux difficultés des auteurs, artistes et interprètes en temps de Covid. À l'ordre du jour ce soir, la crise sanitaire va-t-elle bouleverser le droit d'auteur, le droit des artistes, le droit des auteurs et des interprètes? C'est la question que nous allons poser ce soir. Une décision de la Cour de justice européenne bouleversant la répartition des droits en septembre, un appel aux dons de la part d'artistes lyriques en octobre, une lettre ouverte à la ministre de la Culture de dizaines d'artistes, c'était en novembre. Chaque mois de cette année 2020 témoigne des difficultés des artistes et auteurs dans un contexte déjà bouleversé par la révolution des usages induite par l'explosion du numérique. Les salles de spectacle fermées signifient en effet que les droits voisins qui permettent la rémunération des interprètes ne sont plus versés et que les dramaturges et auteurs de théâtre n'ont plus de revenus. Bien sûr, les aides publiques prennent en partie le relais, mais la fragilisation des droits d'auteur à la française est accentuée par cette crise. Nous allons en parler avec nos trois invités. Anne Bouvier, bonsoir Anne Bouvier.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'ADAMI, vous nous expliquerez ce qu'est cette société de droit voisin. Vous êtes metteur en scène et comédienne. Avec nous également Olivier Japiot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller d'État et président du Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique, le CSPLA. Vous nous expliquerez également quel est son rôle. Et enfin, Chantal Santon-Geffry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole juridique de l'association Unisson et vous êtes soprane. On en parlera avec vous.
Le rayonnement de la France, son attractivité aussi, elle est liée notamment à ses talents créatifs. S'il n'y a pas des mesures fortes, complémentaires et centrées sur nos membres, la casse risque d'être telle que c'est peut-être une ou deux générations qu'il faudra pour rattraper le fait que certains vont arrêter leur carrière dans les mois qui viennent ou que des éditeurs de musique vont mettre la clé sous la porte.
Il s'agissait du directeur général de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, Jean-Noël Tronc, qui était l'invité hier du journal de 12h30 sur France Culture. Il parle de cessation d'activité. Il était au micro de Maxime Tellier. D'ailleurs, il y a sur le site de France Culture un long entretien avec Jean-Noël Tronc sur ces questions de droit et sur ces questions de difficultés pour les auteurs dans cette période particulière. J'imagine justement, Olivier Japiot, en tant que président du Conseil supérieur de la propriété littéraire, artistique, que vous avez des échos nombreux de cette crise que sont en train de traverser les artistes, les interprètes dans ce contexte particulier de crise de la Covid.
Mais écoutez, nous avons une réunion le 15 décembre prochain, au cours de laquelle d'ailleurs participera la ministre de la Culture, Madame Bachelot. Donc je ne doute pas que ce sujet effectivement sera évoqué. Je voudrais vraiment dire ici tout mon soutien et toute ma compréhension pour les artistes qui souffrent.
Quelles sont les difficultés, Anne Bouvier, que rencontrent les artistes, les interprètes aujourd'hui? Des difficultés particulières. Alors on sait qu'il y a eu beaucoup de soutien de la part du ministère de la Culture, le prolongement des droits de l'intermittence et tout un tas d'autres soutiens personnels qui ont pu être apportés à tel ou tel. Mais néanmoins, quelles sont les difficultés spécifiques que vous croisez en tant que présidente de l'ADAMI? Vous nous expliquez ce qu'est d'ailleurs l'ADAMI.
Eh bien, l'ADAMI, c'est une société civile qui administre les droits des artistes et des musiciens-interprètes, c'est-à-dire les fameux droits voisins des droits d'auteur, qui sont en réalité des rémunérations secondaires issues de l'exploitation du travail enregistré, qu'il soit sonore ou audiovisuel. Donc nous gérons et nous répartissons ces droits voisins des droits d'auteur. Et là, on se rend compte depuis le mois de mars, évidemment. Nous avons une commission qui s'appelle Droit au cœur et qui permet d'aider les artistes en difficulté. Et je peux vous dire qu'on a été submergés par les demandes d'aide qu'on essaie d'honorer au maximum, qui sont des demandes d'aide pour des accidents de la vie récurrents, mais aussi évidemment liés à la crise du Covid. Et on a mis en place un fonds d'urgence spécifique.
Oui, et de votre côté, Chantal Santon-Geffry, vous êtes donc soprane. J'imagine que vous n'avez pas eu l'occasion de vous produire beaucoup depuis le mois de mars dernier, comme beaucoup de vos collègues, j'imagine. Et vous avez monté une association qui s'intitule Unisson. Qu'est-ce qu'Unisson ?
Unisson, c'est une association de chanteurs lyriques, plutôt solistes, qui donc, peut-être pour la première fois, nous nous intéressons un tout petit peu plus à nos droits, puisque tous nous nous sommes retrouvés à la maison. La fermeture des salles, et voilà, j'entendais Anne Bouvier parler de rémunération secondaire. Eh bien, nous, c'est notre rémunération première que nous avons perdue, puisque à partir du moment où on ne peut plus jouer, nous ne sommes plus payés. L'État nous a été, quand même, nous a beaucoup soutenus. Mais voilà, donc
ce du qui coup, est une cette... particularité par rapport à d'autres chanteurs lyriques, par exemple dans l'ensemble de l'Europe ou
absolument
dans le monde entier.
Nous sommes mieux défendus en France qu'à l'étranger, de par déjà l'intermittence et puis la mise en place de l'activité partielle, même si elle a été un peu chaotique. On a eu quelques déboires avec certains employeurs, a été quand même plutôt bien mise en place en France. Bon, ça n'empêche pas que certains artistes lyriques se sont retrouvés en situation extrêmement précaire. Donc, merci à l'ADAMI d'ailleurs de ce fonds ouvert pour eux, pour les musiciens en général. Voilà.
Justement, pourquoi avez-vous fait une mise en demeure de l'État à l'ADAMI pour contraindre le ministère de la Culture à convoquer la commission administrative devant définir une garantie de rémunération minimale pour les artistes? Qu'est-ce que c'est que cette demande que vous avez pu faire, Anne Bouvier, de l'ADAMI?
Eh bien, en fait, cette commission aurait dû être réunie il y a 3 ans déjà. Donc on a un peu fouillé, on s'est dit « Oh mais alors, il serait temps, non ?» Vu le contexte, il me semble que c'est urgent de contraindre peut-être le ministère à convoquer cette fameuse commission administrative qui est très prévue à l'article L214-14 du Code de la propriété intellectuelle et qui doit définir une garantie de rémunération minimale pour les artistes de musique. Donc là, ça y est, on a grâce à cette mise en demeure, on a des rendez-vous là qui sont dans les tuyaux.
Et donc, qui vont permettre quoi exactement pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce milieu de la musique?
Nous, on veut revoir les barèmes sur les plateformes numériques notamment, parce que les artistes ne profitent absolument pas d'une rémunération décente pour l'utilisation de leur travail sur Internet. C'est là tout l'enjeu, c'est revoir ce barème-là.
Et qu'est-ce qu'on entend par plateforme? Parce que quand on entend plateforme en termes de cinéma, on entend Netflix, on entend Apple+, etc. Mais en termes de musique, de quoi s'agit-il exactement, Anne Bouvier?
Vous avez Spotify, par exemple,
hein, Deezer, YouTube également.
Absolument, tous ces principes qui fonctionnent par abonnement et qui vous donnent un accès illimité à du contenu artistique.
Olivier Japiot, en tant que président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, vous êtes en pleine tempête, pourrait-on dire, mais cela fait plusieurs années d'ailleurs, justement lié à la présence massive de ces sociétés, en particulier ces GAFAM, qui viennent des États-Unis et qui, effectivement, n'ont pas les mêmes législations, le même respect des droits d'auteur, des droits d'auteur dites à l'européenne, pourrait-on dire, et donc qui ne rémunèrent pas les artistes de la même manière qu'en est-il exactement? Parce que je crois que c'est extrêmement important pour pouvoir comprendre pourquoi à cette crise sanitaire s'ajoute une autre crise qui est une crise, disons, diplomatique, pourrait-on dire, en termes de droits d'auteur.
Vous savez, c'est un très vieux sujet parce que moi j'ai commencé à m'y intéresser dès 1997, donc à une époque, mes enfants ont du mal à l'imaginer, mais voilà, où Internet n'était quasiment pas utilisé.
Vous étiez le rapporteur du Conseil d'État qui définissait le régime juridique de l'Internet en France, c'est ça?
C'est exactement ça, tout à fait. Un rapport voilà, qui était assez visionnaire sur pas mal de points, et en particulier, moi je m'étais occupé justement de la question de la propriété intellectuelle et notamment du droit d'auteur. Et j'avais alerté un certain nombre d'acteurs sur les risques alors de piratage dont on pourra reparler, mais surtout sur les risques de l'Internet sans frontières. Et donc on voit bien qu'effectivement émergent des acteurs internationaux très puissants et qu'on a une difficulté à leur appliquer des règles françaises, voire des règles européennes. Et de ce point de vue-là, le fait que la Commission européenne se soit saisie du sujet, notamment à travers une directive là toute récente, dont on pourra reparler pour essayer de peser sur les plateformes, me paraît justement le signe qu'on a besoin de l'Europe et de l'Union européenne.
Alors on attend effectivement le Digital Service Act qui devait intervenir d'ici depuis maintenant une semaine et qui interviendra peut-être d'ici une semaine ou deux, donc qui est une vision effectivement de la manière dont la question du digital et du numérique bouleverse les systèmes de rémunération et tous les systèmes, pourrait-on dire, de diffusion aussi en Europe. Mais sur ce point, Olivier Japiot, Il faut expliquer que il y a eu des discussions aussi qui ont été compliquées par une décision du mois de septembre, la Cour de justice européenne, qui a chamboulé le système de répartition de certains droits, et en particulier, on en parlera peut-être avec vous, Anne Bouvier, pour l'ADAMI et d'autres sociétés comme celle-ci, ces droits voisins bénéficiaient depuis un certain temps du fait qu'il n'y avait pas d'accord, par exemple, avec des sociétés américaines de réciprocité, et donc qu'il y avait ce qu'on appelait des irrépartissables, c'est-à-dire des sommes assez conséquentes qui n'étaient pas réparties donc de droits d'auteur et qui, donc selon la décision de cette Cour de justice européenne, désormais devraient être réparties à l'ensemble des acteurs, y compris aux États-Unis. C'est bien ce que j'ai compris, en l'occurrence, Olivier Jappiot ?
C'est ça, tout à fait. L'idée étant, d'ailleurs, c'est classique en droit international, que voilà, quand il y a des droits dans un pays, on attend qu'il y ait une réciprocité dans l'autre. Et dans la mesure où il n'y a pas ce type de rémunération garantie et répartie aux États-Unis, voilà, donc ça ne bénéficie pas aux auteurs européens et aux artistes européens surtout. Et ben, il est normal que voilà. Dont la réciprocité, bah, il n'en bénéficie pas en France et en Europe. Il était normal, voilà, exactement.
La Cour de justice européenne a cassé cette logique, pourrait-on dire. Et qu'est-ce que ça change, justement, pour la rémunération et les ayants droit européens et donc la possibilité aussi pour les sociétés d'auteurs d'avoir cet argent des irrépartissables à distribuer en termes de bourses, etc., etc. Olivier Jappiot, puis Anne Bouvier.
C'est effectivement un enjeu de plusieurs millions d'euros là sur l'ensemble des sociétés de gestion collective. Je sais que de droits d'auteur qui ont dû du coup geler un certain nombre de leurs aides au moment où on en a le plus besoin. Donc c'est un gros sujet de préoccupation pour le ministère de la Culture, mais qui n'aura, puisque c'est une décision d'accord de justice de l'Union européenne, qui ne pourra avoir qu'une réponse européenne, avec la difficulté du temps long européen, alors qu'il y a un sujet urgent. Donc c'est un sujet sur lequel pourra tout à fait se pencher le CSPLA.
Oui, et donc Anne Bouvier, pour une société comme l'ADAMI, par exemple, ce sont des aides que vous ne pouvez distribuer cette année, alors qu'elles sont particulièrement utiles en temps de crise de la Covid.
Absolument, là c'est un pan de notre action artistique qui s'écroule. Donc on a dû revoir absolument tout notre budget à la baisse et faire des sacrifices.
Vous financiez des festivals, vous financiez des... Qu'est-ce que vous financiez avec cet argent, justement, des irrépartissables dans l'ensemble de vos actions?
Ce sont justement, c'est tout le spectacle vivant, ce sont des bourses d'aide, de création, des festivals... C'est absolument tout ça, c'est-à-dire tout ce qui a le plus souffert suite à la crise. Donc c'est une véritable catastrophe pour nous et pour les artistes surtout.
Alors Chantal Santon-Jeffrey, pour vous, ça n'est pas cette crise justement des droits voisins venant de la Cour de justice européenne et de cette décision qui vous met dans l'embarras. C'est plus exactement le fait d'avoir totalement arrêté vos concerts depuis un certain temps, mais aussi parce que on peut dire que les artistes sont un peu seuls généralement dans ce genre d'action, dans ce genre de crise, et que là vous avez décidé pour une première fois de vous mettre ensemble, de créer une association, de faire une plateforme et de réfléchir ensemble à votre condition d'artiste-interprète dans un moment de crise particulière.
Oui, absolument. C'est vrai que les chanteurs lyriques sont de grands solitaires. On écume les scènes de France, d'Europe, du monde. Pour certains, on est souvent effectivement seul et on n'est pas forcément très informé sur nos droits. C'est ce qui est à notre voilà, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être pu s'y intéresser un petit peu plus tôt. Là, c'est évident que la crise Covid, en plus de donc nous mettre au chômage, nous a aussi je pense donner envie de nous intéresser un tout petit peu plus à cette question des droits voisins, puisque c'est de ce dont on parle aujourd'hui, puisque donc comme nous étions à la maison, eh bien notre seule interface avec notre public, c'est devenu le numérique,
le streaming,
le streaming, etc. Voilà. Donc à partir de là, nous avons eu tout un tas de propositions. D'ailleurs, en ce moment, moi, je fais plutôt qu'enregistrer des disques. C'est ce qui m'arrive en ce moment. J'ai de la chance. Mais il y a aussi tout un tas de choses qui se sont passées sur Internet, des diffusions plus ou moins légales, plus ou moins volontaires de spectacles ou de musique.
Et puis aussi avec cette idée, pour beaucoup de maisons d'opéra, maisons de concerts, concerts, etc., de mettre à disposition d'un public qu'ils ne voyaient plus des concerts qu'ils avaient enregistrés, parce que c'était et sur le mode de la gratuité, parce que c'était une façon de garder un lien avec un public.
Absolument. Donc c'est ça, tout ça vient d'une intention absolument louable, c'est-à-dire de continuer à faire que notre métier existe, que notre travail s'en fasse entendre. Nous, on sait depuis longtemps dans le milieu de la musique classique que la diffusion par radio, par télévision, par internet désormais principalement, c'est avant tout de la promotion. On sait qu'on ne gagne plus notre vie en faisant des disques ou des DVD. Donc c'est vrai que le caractère promotionnel de la diffusion fait que en premier lieu, on a trouvé que c'était une très bonne initiative de diffuser comme ça peut-être des spectacles qui avaient été juste archivés mais qui d'un coup se sont retrouvés diffusés sur internet. Et puis quand même, on s'est un petit peu intéressé maintenant à cette question des droits voisins, de nos droits, mais finalement, puisqu'on n'a plus que ça pour l'instant, peut-être on pourrait être rémunéré pour cela. Et là, on a commencé à s'y intéresser. Et d'ailleurs, je trouve que le site de la DAMI est extrêmement bien fait. Je l'ai parcouru abondamment récemment sur justement, tout simplement, cette question épineuse et très complexe des droits, puisque c'est des droits voisins que nous pouvons toucher. C'est assez technique. J'en parlerai pas ici. Je pense que j'en parlerai beaucoup moins bien qu'Anne Bouvier. Mais en tout cas, il est important maintenant de s'y intéresser.
Oui, parce qu'il est important de s'y intéresser, parce qu'on peut dire Anne Bouvier qui avait une sorte de tendance, en particulier pour les musiciens, les musiciennes, à se dire, eh bien, puisque le streaming ne rapporte pas beaucoup, sur ces plateformes qui s'appellent Spotify ou Deezer, avec des taux de rémunération qui sont très bas pour les artistes, on va privilégier le spectacle vivant, on va privilégier le concert, on va privilégier la présence physique des artistes, et que là, effectivement, eh bien, cette présence physique, elle est bouleversée par cette crise de la Covid, Anne Bouvier.
Absolument. Vous parliez de Spotify, pour donner un exemple. Un abonnement qui est à moins de 10 euros, ça représente 46 centimes pour un artiste. Donc c'est absolument dérisoire. Voilà, c'était pour étayer le propos. Et évidemment que le combat des droits voisins à la suite des exploitations des œuvres qui sont diffusées sur les plateformes, c'est une chose sur laquelle là on œuvre ardemment. Mais la mise en demeure a fait bouger les lignes. Là, on s'en rend compte. Là, on est contacté un peu par des plateformes. On se dit que c'est bon signe, parce que pour l'instant, les artistes touchent absolument rien. L'exploitation de leur œuvre qui est diffusée sur les plateformes, c'est rien du tout pour eux. Les artistes interprètent.
Oui, ce bouleversement, Olivier Japiot, en tant que président du CSPLA, le Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique, vous avez pu le noter, cet éloignement, pourrait-on dire, des modes d'enregistrement traditionnels, même s'ils se poursuivent, et puis ce privilège de vouloir monter sur scène pour pouvoir exister physiquement auprès d'un public, pour pouvoir justement toucher des rémunérations parce qu'on fait des concerts et que, évidemment, ça n'est plus possible aujourd'hui. Tout cela, c'est une sorte de retour en arrière pour des musiciens, des musiciennes qui avaient imaginé à un moment ou à un autre que c'était la porte de sortie, étant donné la faible rémunération des plateformes.
Écoutez, je crois que tous les moyens de s'exprimer de manière artistique doivent être privilégiés. L'avantage du droit d'auteur et des droits voisins, c'est que voilà, il s'applique quel que soit le mode d'expression artistique. Après, c'est une question de mise en œuvre, de rapport de force avec justement les diffuseurs et en particulier les plateformes. Et je voudrais souligner que la directive de 2019, la européenne, a affirmé là dans son article 18 qu'il y avait un principe de rémunération proportionnelle au bénéfice donc des auteurs, des artistes, et donc c'est reconnu au niveau européen. Après, c'est une question de mise en œuvre, ce qui est pas simple.
Oui, ça veut dire quoi justement cette mise en œuvre? Ça veut dire des négociations qui doivent s'ouvrir avec chacune des plateformes?
Absolument, avec le soutien de l'État, et puis en tant que de besoin, une intervention législative justement dans le cadre de cette directive pour soutenir dans une négociation qu'il faut reconnaître est assez déséquilibrée. Donc il y a besoin du soutien de l'État aux côtés des artistes et des créateurs.
Et du soutien de l'Europe aussi, parce que on peut se dire effectivement que ça n'est pas si évident ce qu'on appelle le droit d'auteur à la française, même si il a eu tendance à se répandre plus ou moins dans les autres pays d'Europe, par rapport au copyright, par rapport au droit des producteurs, etc. Ça n'est pas ce qui prédomine dans le monde, pourrait-on dire, Olivier Japiot.
Alors, il y a une approche américaine, effectivement, celle du copyright, bon, qui a certaines différences, mais quand même la convention de Berne qui concerne le droit d'auteur, elle s'applique dans quasiment tous les pays. Après, là encore, c'est une question de mise en œuvre, mais le
droit... Ça dépend de qui possède les droits, en l'occurrence. Et si c'est le producteur qui les possède, ça n'est pas la même chose que si ce sont les artistes eux-mêmes.
Voilà, ça après, en termes de rémunération, après il y a une question philosophique également. Mais le point important, c'est qu'il y ait une protection des auteurs et qu'elle soit effectivement assurée. Et ça, c'est vrai que c'est assez différent d'un pays à l'autre. Mais je pense que Beaumarchais, qui est à l'origine du droit d'auteur, au XVIIIe siècle, serait très heureux de voir que désormais ça s'applique dans le monde entier et que l'Europe, particulièrement, à travers différentes directive assure vraiment une protection de plus en plus complète de ce droit, et notamment par rapport aux plateformes dont on parlait.
Vous écoutez Le Temps du Débat, il est 18h40, nous parlons aujourd'hui de la question des droits d'auteur, de la façon dont elle est bouleversée peut-être à la fois par la crise numérique et par la crise sanitaire, et nous en discutons avec nos trois invités.
Help, I need somebody, help, not just anybody, help. You know, I need someone.
France Culture, Le Temps du Débat, Emmanuel Laurentin.
When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now those days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round.
Help me get my feet back on the ground.
Back on the ground.
Won't you do?
Seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round.
Help me get my feet back on the ground. Won't you do?
En ce 30e anniversaire du décès et de l'assassinat de John Lennon, on ne pouvait pas ne pas passer à un extrait des Beatles, mais en l'occurrence, c'est dans une interprétation entièrement vocale des King Singers, donc Help des Beatles. Nous sommes en compagnie de nos trois invités, d'Anne Bouvier, présidente de l'ADAMI, de Chantal Santon-Geffruy, donc porte-parole juridique de l'association Unisson et Soprane, et d'Olivier Japiot, conseiller d'État et président du CSPLA, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Là, on ne parle, Olivier Japiot, que des artistes et des interprètes, mais cette question du droit d'auteur, elle est rediscutée aussi pour les auteurs par exemple de dramatique, les auteurs qui écrivent des scénarios pour le cinéma ou pour les séries télévisées ou les séries de Netflix par exemple. Et là, on voit bien effectivement que quand on écrit pour Netflix, ça n'est pas exactement la même chose que quand on écrit pour une chaîne de télévision française dans la rémunération de ces auteurs, Olivier Japiot.
Il est clair que dans le système du copyright américain, dans lequel le principe c'est que les droits appartiennent au producteur, la situation de l'auteur est beaucoup moins favorable que dans l'Union européenne, à l'instigation de la France, qui est très écoutée au niveau européen sur ces sujets, et que aux États-Unis, typiquement, les auteurs c'est quasiment de simples salariés, alors que dans l'Union européenne, ils ont donc c'est à eux qu'appartiennent les droits, même s'ils peuvent en céder tout ou partie au producteur, à l'éditeur. Et puis, ils ont le droit moral également qui leur permet quand même de s'assurer qu'il n'y a pas un détournement scandaleux de ce qu'ils ont réalisé, écrit.
Oui, et sur ce point, Anne Bouvier, j'imagine que cela fait partie des craintes que vous pouvez avoir, pas simplement pour les musiciens ou les gens de spectacle que vous représentez, mais pour en tant que vous êtes metteur en scène, vous êtes comédienne, donc vous savez que c'est en jouant, et quand on est auteur de théâtre, c'est en jouant que l'on est rémunéré aussi. Ça doit être une vraie difficulté que de voir arriver ces plateformes, et peut-être plus que les plateformes, disons, l'idée du droit d'auteur qu'elles représentent.
Bien sûr, l'arrêt des spectacles vivants, moi, pour tous mes camarades auteurs contemporains, c'est une catastrophe. Et pour nous autres metteurs en scène aussi, ce sont des droits d'auteur que nous ne percevons plus. Donc nous craignons beaucoup effectivement l'arrivée de toutes ces plateformes. On se sent très petit.
Parce qu'avec ça, il y a la question de la gratuité. C'est vrai qu'on l'a évoqué il y a un instant avec Chantal Santon-Geffry. C'est que pour pouvoir exister, eh bien, beaucoup de structures ont décidé de mettre en ligne des heures et des heures d'opéra, de concerts, de pièces de théâtre, etc. Mais évidemment, cette gratuité ne rapporte rien à ces maisons. C'est juste pour pouvoir maintenir le lien avec leurs spectateurs qu'elles le font. Et donc, ne rapporte rien non plus à celles et ceux qui participent à ces créations.
C'est formidable qu'il y ait une gratuité via les institutions publiques comme l'opéra, etc. J'ai envie de dire, c'est dans leur ADN, c'est dans leur devoir. Mais il est important que les gens sachent aussi le coût que ça représente de monter un opéra, de monter un spectacle. C'est important aussi qu'on ait la notion de la valeur artistique.
Et cela, comment peut-on l'avoir justement quand, par ailleurs, eh bien, les offres se font les moins chères possibles pour pouvoir attirer le plus de personnes possible dans ces abonnements et que, effectivement, ce qui compte, c'est la masse des centaines de milliers, voire des millions de spectateurs que l'on pourra revendiquer en disant, eh bien, on les a eus parce que c'était gratuit aussi ou c'était peu cher. Anne Bouvier, ah, vous n'êtes plus avec nous.
Je ne vous entends. Bien sûr. Ouais. Donc il y a un accès à la. Oui.
Allez-y.
Ça y est, je crois qu'il y a eu un.
Oui, allez-y, on vous entend.
Ça y est, vous m'entendez ?
Oui.
Oui, il y a une démocratisation de la culture qui est indispensable et qui est formidable. Mais je pense qu'il y a un besoin aussi de pédagogie à travers les messages qu'on envoie, aussi à propos de la piraterie, que les gens sachent aussi que c'est les artistes qui sont derrière tout ça, que c'est pas que les plateformes qu'on attaque quand on pirate. Et qu'on lèse, c'est avant tout les auteurs et les créateurs qui sont lésés.
Olivier Japiot, sur ce point de la piraterie et plus largement, effectivement, de cette rémunération des artistes et des auteurs dans ce contexte de piraterie.
Alors ce sujet de la gratuité, ça fait effectivement plusieurs années qu'on se rend compte du risque. Alors, qui est vrai sur beaucoup de choses sur Internet, mais particulièrement sur les contenus culturels. Et donc, il faut réussir à la fois avoir une accessibilité, une démocratisation de l'accès à la culture, ça on peut que s'en réjouir, sans tomber dans la culture de gratuité. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'émergence sur la musique des plateformes payantes, justement, dont on parlait tout à l'heure, Deezer, Spotify, alors, même si certainement il y a un effort à faire sur la rémunération des artistes interprètes, mais le fait que cette offre soit devenue tout à fait généralisée, accessible, a très très fortement réduit les problèmes de piratage sur la musique. Et je pense qu'on est en train d'aller dans cette direction sur le cinéma et l'audiovisuel, mais on n'y est pas encore.
Oui, et on est aussi en train d'aller vers la rémunération, par exemple, de spectacles. Je crois que l'Opéra de Paris, vous y avez travaillé à une époque, en l'occurrence Olivier Japiot, a décidé de faire le choix du payant. L'Opéra d'Athènes met des tickets en ligne qui coûtent environ 10 euros pour, si on veut voir un des spectacles de l'Opéra d'Athènes. On voit effectivement que c'est une tendance qui va en s'accentuant. Après cette tendance de la gratuité du premier confinement, eh bien, on imagine maintenant des abonnements ou des spectacles payants.
Tout à fait. D'ailleurs, on le voit sur les opérations en partenariat avec les cinémas qui marchent très bien, qui permettent d'avoir du coup quand même du public et puis une salle de spectacle, même si ça n'est qu'une salle de cinéma et non pas la salle de l'opéra. Et effectivement, il y a la formule aussi sur Internet. Donc l'important, comme je le disais, c'est que ce soit des prix accessibles, mais le tout gratuit, c'est tout à fait pernicieux.
Vous imaginez, en tant que soprane, Chantal Santon-Geffry, qu'il y a quelque chose de neuf pour vous, de se donner en spectacle, c'est le cas de le dire, mais à distance, comme cela, dans des cas où aujourd'hui, par exemple, eh bien, on peut le faire avec personne dans la salle ou presque personne dans la salle pour pouvoir justement avoir une audience. On a fait une mise en scène, on a fait un spectacle et on peut le porter au loin, comme cela, avec un public qui n'est plus devant soi.
Oui, on peut le faire. Ça se fait d'ailleurs en ce moment. Mais je voudrais quand même rappeler pour vos auditeurs, et je pense qu'aucun musicien du monde de la musique, en tout cas classique, la musique acoustique ne me contredira, rien ne remplace le spectacle vivant. L'émotion d'une voix, d'un instrument qui arrive directement à l'oreille du spectateur est irremplaçable. Donc pour nous, les plateformes numériques, les plateformes audio, c'est quelque chose, mais ce n'est pas exactement notre métier. Même si, voilà, encore une fois.
C'est quoi? Vous l'imaginez comme quelque chose de complémentaire du spectacle vivant, comme une sorte de rémunération possible supplémentaire à ce que vous pouvez faire si vous continuez à faire des spectacles vivants? Mais on peut se dire aussi, pour des raisons sanitaires, cette situation peut durer et perdurer. On l'espère pas, mais ça peut encore.
On l'espère pas. Je préfère être optimiste parce qu'encore une fois, je crois beaucoup au disque. Qui est quand même ancien comme médium, comme support, et qui permet avec une bonne chaîne IFI à l'auditeur de vraiment se transporter aussi par l'imaginaire dans peut-être un opéra qu'il va refabriquer dans sa tête. Mais par contre, j'avoue que moi-même, je n'en regarde jamais un opéra sur un petit écran d'ordinateur. Pour moi, c'est une expérience quasi nulle. Je le fais pour me renseigner, pour apprendre, mais je ne crois pas vraiment que pour nous, ce soit notre avenir. Je crois que les retransmissions en salle de cinéma, c'est un assez bel objet, parce que là, il y a vraiment un matériel qui permet vraiment de presque s'immerger à l'opéra. Mais encore une fois, rien ne remplacera notre art, qui est vraiment un art qui va de notre bouche à l'oreille du spectateur. Et j'espère vraiment qu'on va retrouver le chemin des salles.
Ouais. Anne Bouvier, vous qui êtes présidente de l'ANAMI, metteur en scène et comédienne, vous savez que certains ou certaines de vos confrères ou consoeurs ont imaginé, se sont dit, tout compte fait, prenons ce nouveau médium, imaginons-le, faisons-en quelque chose. Arthur Nosicier, la montée splendide de Genet, par exemple, donc lui qui dirige le Théâtre National de Bretagne, à Rennes, sur Zoom, en imaginant une mise en scène pour Zoom, donc cette plateforme de diffusion particulière. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces expériences? Est-ce que ça ne peut avoir qu'un temps? Ça ne peut être qu'une sorte de d'édulcoration d'un travail que l'on fait forcément sur scène?
J'irai dans le sens de Chantal. Je crois que rien ne vaut le live, le spectacle vivant. Je pense que les gens ont besoin de ça, que c'est quasiment archaïque. On aura toujours besoin que quelqu'un nous raconte là une histoire ou d'entendre quelqu'un nous chanter une chanson. Je crois beaucoup en ça. En revanche, bien sûr, il y a de nouvelles formes qui ont été créées. Je pense qu'on va pouvoir cohabiter et qu'il faut écouter ces nouvelles formes-là et peut-être trouver un moyen de faire des captations, mais qui soient upgradées, si je puis dire. Il y a, je pense, quelque chose à réinventer. Les captations sont rarement satisfaisantes, que ce soit au théâtre ou à l'opéra. Je suis complètement d'accord avec Chantal. Et on ne peut pas rendre compte de l'émotion ou de la grandeur de ces arts-là, à mon avis, via un Zoom. Mais il y a certainement une base pour inventer quelque chose qui peut-être pérenne.
Olivier Giappiot, est-ce qu'il n'y a pas des risques, justement, dans cet immense bouleversement des droits d'auteur qui est lié à la fois à la crise de la Covid et au numérique, de voir des déchirements entre, disons, les types de personnes qui peuvent bénéficier de ces droits d'auteur, les producteurs d'un côté et de l'autre côté les artistes, c'est-à-dire, disons, des sociétés de producteurs qui ne seraient pas d'accord pour rebattre les cartes, pour partager un peu la donne et partager un peu les bénéfices de nouvelles négociations?
Cette tension, là encore, elle existe.
Elle est ancienne, vous allez me dire.
Voilà, exactement, parce que si Beaumarchais, justement, s'est mobilisé dès le XVIIIe siècle, parce que la situation, alors je pense, c'était vraiment bien pire qu'aujourd'hui. Donc, grâce justement aux organismes de gestion collectifs, comme l'ADAMI, la SACEM ou la SACD, aux syndicats également d'artistes, voilà. Plus le soutien du ministère de la Culture et puis donc des textes, hein, le code de la propriété intellectuelle, les directives européennes dont je parlais, il y a quand même des moyens d'assurer cette protection des droits des auteurs et des artistes, parce qu'évidemment le rapport de force économique, il n'est pas en leur faveur. Et c'est pour ça que par rapport à la question que pose votre émission, voilà, sur le bouleversement du droit d'auteur. Bien sûr, la crise sanitaire, bien sûr, le développement du numérique oblige le droit d'auteur à s'adapter, mais il est incroyablement plastique et il permet vraiment d'assurer sa protection. C'est vraiment son ADN.
Ça veut dire que vous n'avez pas de crainte du tout, parce qu'on entend aujourd'hui beaucoup d'artistes. On entend par exemple cette lettre qui a été envoyée le 23 novembre, la lettre ouverte à Roselyne Bachelot de la part d'artistes et de théâtre en particulier, qui disent bah, de toute façon la réponse à cette pathologie sans lien, cette pathologie du lien installé donc avec l'outil numérique, nous accable et nous inquiète, disent-ils. Ce sont des solutions de secours dangereuses dont la banalisation pourrait conduire à la disparition des lieux de spectacle. Vous êtes beaucoup plus optimiste, visiblement, Olivier Jappiot.
Oui, j'espère que la crise du Covid va quand même, avec l'arrivée du vaccin, comme se calmer dans les prochains mois et qu'on va pouvoir revenir à une vie normale.
Ah, mais parce que les professionnels du cinéma sont un petit peu plus inquiets que vous, parce que effectivement, quand on voit de très grands blockbusters hollywoodiens qui vont sortir directement sur les plateformes et ne plus être diffusés en salle, ils se posent beaucoup de questions tout de même.
Oui, mais ce que je note, c'est que les grands studios, notamment, je crois, le studio Warner, a bien dit que voilà, c'est pour l'année 2021, parce que quand on voit la situation sanitaire aux États-Unis, on voit qu'effectivement les salles de cinéma sont pas prêtes de rouvrir dans des conditions normales. Mais je crois pas qu'ils aient du tout l'intention de justement de passer cette étape de la salle du cinéma, où il y a quand même sinon le lien avec les artistes, en tout cas le lien dans le public. Et ça, je partage tout à fait ce que disaient Anne Bouvier et Chantal Santon-Géféry, le fait d'être ensemble dans une salle de spectacle, idéalement en présence des artistes, je pense aux spectacles musicaux, c'est irremplaçable.
Oui, Anne Bouvier, on a entendu dire tout à l'heure, et on va revenir vers lui, Olivier Jappiot, nous dire qu'il y aurait une réunion le 15, donc au ministère de la Culture, en présence de la ministre elle-même. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que société d'auteur, comme la DAMI, vous occupant en particulier des musiciens, qu'est-ce que vous attendez de ce qui pourrait être fait en plus de ce que nous a dit Chantal Santon-Géfry, c'est-à-dire de ce soutien par l'intermittence, par des aides, par le chômage partiel, etc., tel que ça a été fait. Mais ça, c'est effectivement pour parer à l'urgence. Mais qu'est-ce que vous attendez de plus, Anne Bouvier ?
On attend du courage politique, on attend de grandes décisions, d'un vrai positionnement par rapport aux plateformes, effectivement, comme en Espagne, par exemple, où Netflix a réussi à dealer. Il y a une obligation de rémunération proportionnelle qui est à hauteur de 3% pour les interprètes, et ça ne pose aucun souci. Donc il y a des choses possibles, et on a besoin là d'actes forts, mais on sait que Roselyne Bachelot est à notre écoute, et on a confiance en elle, et c'est vrai qu'on a beaucoup de retard dans l'audiovisuel aussi, comme le disait Olivier tout à l'heure.
Pour votre part, Chantal Santon-Géfry, qu'est-ce que vous attendez justement avec votre association Unisson que vous avez montée, dont vous êtes la porte-parole juridique? Donc qu'est-ce que vous attendez de ce qui va se passer dans les semaines, voire dans les mois à venir, du côté du droit d'auteur, du côté de la reconnaissance des artistes et des interprètes que vous êtes?
On s'intéresse beaucoup à des questions qui sont pas tout à fait l'objet de ce débat aujourd'hui, de cette discussion. Concernant nos droits, effectivement, un respect tout simplement par les diffuseurs de ce qui est inscrit dans les conventions collectives de la phonographie, par exemple, que j'ai découvert récemment.
On a l'impression que vous découvrez l'existence de tout cela.
Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on considère que voilà, c'est même si c'est la diffusion la fixation de nos performances, de nos prestations, sont en fait secondaires et promotionnel avant toute chose. Ce n'est pas, on souhaiterait pouvoir faire des disques et que ça nous rapporte de l'argent, mais on constate que malheureusement dans la réalité ce n'est pas le cas. C'est pour ça que du coup on s'y intéresse moins, mais encore une fois il est toujours temps d'y revenir.
Qu'est-ce qui se passera le 15, parce que vous nous avez mis l'eau à la bouche, Olivier Jappiot, en disant il y aura une réunion, on va réfléchir à toutes ces questions-là. Le 15, qu'est-ce que vous allez organiser donc en tant que président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en compagnie justement de la ministre et de tous les acteurs de ce secteur?
En fait, le CSPLA, c'est un organisme qui fait des études, hein, qui produit des rapports, mais qui est également il y a une soixantaine de membres, qui est également effectivement un lieu d'échange entre les ayants droit et les consommateurs, les éditeurs, etc. Je pense qu'il y aura un échange assez nourri avec la ministre sur les difficultés liées à la situation sanitaire et toutes les questions effectivement que nous nous sommes posés ce soir. Mmh. Alors, s'agissant de Netflix, j'ai entendu la ministre dans votre émission là il y a quelques jours indiquer qu'elle était en train de mettre la dernière main justement à ce texte sur les obligations de Netflix, dont je rappelle que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, quand j'en étais le directeur général, plaidait déjà pour cette harmonisation des réglementations entre les chaînes de télévision françaises et puis ces plateformes internationales.
Il faut peut-être rappeler effectivement que cette date du 15, elle est très attendue, y compris pour les artistes, parce qu'on a cru comprendre que ça ne serait peut-être pas la libération attendue et le départ justement d'un nouveau temps pour les artistes qui se donnent sur scène. Merci à tous les trois, donc Chantal Santon-Geffry, je rappelle que vous êtes porte-parole juridique de l'association Unisson et vous êtes soprane. Avec nous et également Olivier Japiot, conseiller d'État et président du CSPLA, et Anne Bouvier, présidente de l'ADAMI, metteur en scène et comédienne. C'était le temps du débat avec évidemment comme d'habitude Chloé Cambronin, Imane Gilles, Rémi Baye, Fanny Richet et Hugo Boursier, à la technique Guillaume Leplège, à la réalisation Félix Levacher. Aujourd'hui, dans le temps du débat demain, alors que le texte sera présenté en Conseil des ministres, nous demanderons si le projet de loi confortant les principes républicains fait avancer le droit des femmes. Dans 3 minutes, vous retrouverez Arnaud Laporte pour Affaires culturelles. On va continuer à parler culture, cette fois-ci avec le cinéaste Yann Dedé, et vous écoutez France Culture, il est 19h, les titres de l'actualité avec Arnaud Rozac. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous.